Vous êtes sur RTL. RTL Soir, Thomas Soto.
Elle est ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Frédéric Vidal est donc l'invité d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous, Frédéric Vidal.
Bonsoir.
Votre parole est particulièrement attendue par un monde étudiant en pleine souffrance. Ma première question, c'est celle qu'on se pose dans toutes les facs depuis des jours, depuis des semaines. Les cours dans les amphis vont-ils reprendre ?
Alors nous avons préparé avec l'ensemble des présidents et des directeurs d'établissements un protocole de reprise en petits groupes, des groupes de 10 étudiants qui vont pouvoir renouer le contact avec leurs enseignants et on sait que c'est très important.
Mais ça ne fonctionne pas bien. Vous entendiez tout à l'heure à 18h le professeur de Lille qui disait c'est impossible, moi je ne connais pas mes élèves, je ne sais pas choisir les 10 élèves. Il dit même c'est une aberration, c'est bidon.
Bah écoutez, heureusement que tout le monde ne pense pas comme lui et heureusement que encore hier dans l'université que je visitais, les choses se mettent en place effectivement à Cergy et dans de très nombreuses universités en réalité. Vous savez, les choses sont évidemment beaucoup moins binaires que ce qu'elles paraissent. Mmh. On a aussi des étudiants qui ont très peur de revenir en présentiel. Ce que disent les sondages faits par les universités elles-mêmes, c'est environ 60% de jeunes qui demandent à revenir en présentiel, 40% qui ne le souhaitent pas.
Et donc, 60%, ça veut dire qu'on remplit les amphis à moitié, ça permet de respecter les distances. La vraie réouverture des amphis, ce n'est pas prévu pour l'instant ?
Non, ce qui est prévu pour l'instant, c'est la reprise des travaux dirigés, d'abord en petits groupes de 10, et puis avec le Premier ministre, nous recevons vendredi les conférences des présidents et des directeurs d'établissement pour voir quelle peut être l'étape supplémentaire. Évidemment, si les conditions sanitaires le permettent.
Mais pourquoi les étudiants en BTS et en classe prépa dans les lycées sont en présentiel ? Il y a quand même deux poids, deux mesures dans le supérieur, là.
Non, c'est parce qu'en réalité, l'organisation est totalement différente. D'abord, je connais assez peu de lycées qui ont 30 000 étudiants et c'est à peu près la jauge des universités, on va dire, de taille moyenne. Et puis, dans une université, les étudiants se déplacent d'une salle à l'autre, d'un bâtiment à l'autre. Ils n'ont pas un emploi du temps linéaire sur la journée. Ils n'ont pas un emploi du temps linéaire sur la journée. Ils n'arrivent pas. Ils n'ont pas une salle de cours dédiée. Donc, c'est sur tous ces sujets-là aussi qu'il faut qu'on avance et qu'on regarde si c'est possible de mettre ça en place.
Vous souhaitez, vous, qu'il y ait une jauge un peu plus large dans les amphis ou pas ? Est-ce que vous, c'est votre objectif aujourd'hui ? Parce que vous dites, soyons réalistes, compte tenu de l'épidémie, ça n'est pas possible, ça n'est pas envisageable.
Bien sûr que c'est mon souhait, parce qu'avant toute chose, je suis prof. Et je sais bien à quel point le contact humain est essentiel pour enseigner. Donc c'est pour ça que nous avions travaillé sur des protocoles sanitaires qui permettaient la reprise en présentiel dès la rentrée. Et ces quelques semaines ont été très précieuses parce qu'effectivement, même si ça n'a été que quelques semaines, ça a permis à des groupes de se constituer, à prendre un premier contact. Mais on sait qu'évidemment, le fait qu'on ait dû de nouveau arrêter la majorité des enseignements, pas tous, les universités ne sont pas fermées comme au premier confinement, font qu'il y a beaucoup d'étudiants qui en fait se retrouvent seuls.
C'est
et
ça.
Je discutais
et
avec eux,
aussi, ouais.
Ils ont des problèmes de méthode, soit ils passent 12 heures devant leurs écrans, soit le lendemain ils sont découragés.
Ils ont des problèmes de méthode, ils ont des problèmes de morale. Le matin j'allume l'ordi mais je suis incapable de suivre les cours, j'ai
c'est
plus
ça.
La force, ils se sentent flanchés, ils se sont perdus. Après la tentative de suicide d'un étudiant de l'université Lyon 3 samedi, le président de cette université s'est dit très inquiet de l'état psychologique des étudiants dans le pays et il appelle à un plan d'urgence. Est-ce que c'est à l'ordre du jour un plan d'urgence ?
Mais en fait, nous sommes tous très conscients de ces difficultés et les universités nous disent plus 30% de demandes de consultation en psychologie. Notre réponse, elle a été immédiate. Nous avons autorisé les universités à doubler le nombre de psychologues dans les établissements.
Aujourd'hui, il y a un psychologue pour 30 000 étudiants.
Oui, alors là, on parle évidemment de psychologues titulaires. Ça n'est pas du temps de psychologue mis à disposition des étudiants, l'ouverture des centres de santé avec des consultations de psychologues de ville qui viennent auprès des étudiants, évidemment améliorer les choses. Mais là, nous allons augmenter, doubler le nombre de psychologues dans les établissements et puis nous allons aussi recruter des assistantes sociales parce que nous avons doublé les aides d'urgence. Elles sont portées à plus de 50 millions pour l'année 2021.
Et ça se traduit comment pour les étudiants qui sont seuls chez eux, qui sont en train de déprimer chez eux, qui n'ont pas de cours, qui se disent « je n'apprends rien cette année ne me sert à rien ». Ça va se traduire comment ? C'est beaucoup d'argent 50 millions, c'est beaucoup d'argent, mais ça se traduit
d'abord,
comment ?
D'abord, on ne peut pas dire que cette année ne sert à rien et ça c'est vraiment très important. Les enseignants mettent vraiment énormément d'énergie à faire en sorte que les cours aient lieu et à suivre leurs étudiants. La difficulté, c'est vraiment le découragement d'être seul face à son
et
ordinateur.
Et le décrochage.
Et du coup, le décrochage. Donc, deux réponses. D'abord pour tous les étudiants qui sont en résidence universitaire, deux référents par résidence, qui prennent des nouvelles, qui appellent, qui leur remontent leur moral, si je puis dire. Et puis 20 000 tuteurs recrutés dans les universités, donc des étudiants pour aider les étudiants, qui font des cours de soutien, de rattrapage, des aides pour leurs travaux dirigés. On en avait 30 000 sur le premier semestre, on en rajoute 20 000 de plus à partir du deuxième semestre.
Quid des examens, Frédéric Vidal ? Les examens du premier semestre, c'est en ce moment dans beaucoup de fac. Qui riment à quoi ces examens quand il n'y a pas eu de cours ou pas vraiment de cours ?
On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de cours, parce que ce serait vraiment nier tout le travail des enseignants-chercheurs. Les cours ont lieu, les travaux dirigés ont lieu, les enseignants passent un temps fou à chatter avec les étudiants, à répondre à leurs questions. Et donc c'est évidemment important de garantir que cette année n'est pas une année perdue pour les étudiants.
Il ne faut pas acter que cette année, c'est une année blanche, comme on dit ?
Non, absolument pas, parce qu'une fois de plus, ce serait nier le travail et des étudiants et de leurs enseignants. Donc les cours ont lieu, les examens ont lieu. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que c'est particulièrement compliqué pour des étudiants qui ont des difficultés à trouver leur méthode de travail, à se connecter parfois. Mm-hmm. Donc là, évidemment...
Certains suivent les cours sur leur téléphone portable quand ils n'ont pas d'ordinateur. Ça existe, ça, aujourd'hui ?
Absolument, mais c'est pour ça que les établissements ont recensé ces étudiants, ont acheté des ordinateurs, leur ont prêté des ordinateurs... C'est plus de 19 millions d'euros d'équipements numériques, de clés 4G, de data qui ont été fournis par les établissements aux étudiants.
Sur les examens aujourd'hui, ils peuvent se faire en présentiel ou en distanciel. Chaque fac décide en fait. Mais quelle est la valeur d'une copie d'examen faite à la maison, Frédéric Vidal ?
Alors, ça fait très longtemps qu'en réalité, on peut avoir évidemment des évaluations qui sont faites... Alors, par des rendus de mémoire, des rendus de projet, etc.
Ça, d'accord, mais les examens, les partiels qui sont à la maison ?
Alors, chaque fois que ça n'est pas possible, chaque fois que le cours ne s'y prête pas, il y a des examens en présentiel. C'est à peu près 20% des examens qui se tiennent en présentiel. Mmh. Et puis, il y a aussi des solutions de surveillance à distance. Certains établissements ont fait ce choix, évidemment, dans le respect des consignes de la CNIL.
Est-ce que vous avez des nouvelles de cet étudiant qui a tenté de se suicider à Lyon ? On sait que son pronostic vital était engagé ces dernières heures.
Oui, bien sûr, je prends des nouvelles régulièrement. Il y a aussi une enquête qui est en cours. Je lui souhaite évidemment un prompt rétablissement. Et j'ai surtout une pensée très très forte pour sa famille, ses amis. Et puis l'ensemble de son établissement, de ses copains, de ses profs.
Mais c'est toujours très difficile. Mieux ou pas ? Est-ce que son pronostic vital est toujours engagé ce soir ?
C'est pas à moi de me prononcer là-dessus. Et je sais que la famille souhaite que s'en occuper.
On respecte le souhait de la famille. On entend ce que vous dites, il n'y a pas d'assouplissement prévu dans les facs, dans les jours ou les semaines qui viennent. Pour l'instant, ce n'est pas l'ordre du jour.
On travaille à l'étape suivante. Et l'étape suivante, évidemment, c'est de faire revenir plus d'étudiants.
Parce que ça ne sera pas annoncé jeudi, ça, par exemple.
La réunion est vendredi matin avec les conférences des présidents.
En fait, on a l'impression que vous êtes au même régime que Roselyne Bachelot pour la culture et pour les musées. C'est celui de l'incohérence qui suscite de l'incompréhension. Vous l'entendez, ça, ou pas ?
Alors, il n'y a pas d'incohérence. Comme je vous le disais, le brassage qui se fait dans un campus universitaire n'a rien à voir avec ce qui se passe dans un collège ou dans un lycée.
Non, mais on peut aller donner un cours de fac dans une église, dans un temple, dans une synagogue, mais pas dans un amphi. C'est ça aujourd'hui, c'est ça que les étudiants ne comprennent pas.
Non, alors je vois pas en quoi on pourrait aller donner un cours de fac dans une église.
C'est une image. C'est une image. Aujourd'hui, on peut utiliser un rang sur deux dans une église, mais pas dans un amphi. Aujourd'hui, on peut être dans un supermarché, mais pas dans un amphi. C'est ça qu'ils ne comprennent pas, comme pour les musées.
Une fois de plus, la contamination ne se fait pas pendant qu'on est en cours, qu'on est assis et qu'on porte un masque. La contamination, elle se fait à l'intercours, quand on enlève son masque, qu'on prend un café, qu'on discute, qu'on change de salle, qu'on marche en parlant. C'est là que se posent les problèmes. Et donc, c'est ça que nous essayons de résoudre. Mmh. Et c'est dans ce sens-là que nous allons travailler pour faire des propositions.
Autre sujet, Frédéric Vidal, c'est Sciences Po. Son directeur, Frédéric Mion, était au courant des accusations très graves d'inceste visant Olivier Duhamel, enseignant et président de la Fondation Nationale de Sciences Politiques qui chapeaute l'IEP de Paris. Aurélie Filippetti nous a dit ici même, la semaine dernière, qu'elle l'avait prévenu il y a 2 ans au moins. Il n'a rien fait. Il a fait part de sa stupeur en faisant semblant de découvrir tout ça la semaine dernière. Est-ce qu'il peut rester en poste ? Est-ce que Frédéric Mion peut et doit rester directeur de Sciences Po Paris ?
Alors d'abord, Aurélie Filippetti a fait savoir qu'elle l'avait dit à Frédéric Mion, donc ça signifie qu'elle-même le savait, et je pense que...
Et elle est allée voir un avocat
voilà,
pénaliste à l'époque.
Voilà, c'est
et...
effectivement... Il y a des gens qui ont fait ce type de démarche. Frédéric Mion a expliqué qu'effectivement, il avait été informé, il s'était renseigné, on lui avait dit que c'était de la rumeur. Voilà, je crois qu'il ne faut pas rajouter une crise au scandale absolu qu'est le comportement...
Il a fait ce qu'il avait
vraiment,
à faire à ce moment-là.
Écoutez, je ne connais pas suffisamment le dossier pour savoir s'il a fait ce qu'il avait à faire, mais ce que je veux dire, c'est que visiblement...
C'est un dossier qui relève de votre ministère.
Visiblement, énormément de gens étaient au courant, et je regrette que tous ces gens n'aient pas parlé publiquement, parce que c'est absolument inadmissible.
Est-ce que vous souhaitez qu'il quitte son poste ?
Il n'y a pas de raison que je souhaite qu'il quitte son poste.
C'est une école publique, c'est le directeur d'une école publique dans l'enseignement supérieur.
Il y a quand même un tout petit peu de règles pour les nominations et les dénominations des directeurs. Donc évidemment, je suis ça avec beaucoup d'attention.
Ça veut dire quoi ?
Mais ça veut dire que je regarde ce qui se passe dans cette école, j'écoute, je consulte. Voilà, il faut que les choses soient claires de ce point de vue-là. Est-ce qu'il a entendu parler, et visiblement des centaines de personnes avaient entendu parler de cette histoire, et il dit qu'il s'est renseigné. Moi, je pense que c'est à lui de s'exprimer sur ce sujet.
En tout cas, il y a quand même un problème qui trouble beaucoup, notamment les étudiants de Sciences Po qui manifestent et qui se mobilisent. C'est qu'il était au courant, il l'a reconnu, et il a fait semblant de ne pas le savoir quand le journal Le Monde l'a contacté. Il a dit « j'ai appris ça avec stupeur ».
Oui, ça c'est effectivement quelque chose qui mérite une explication de sa part.
Et qui mérite un départ ou pas forcément ?
Qui mérite une explication de sa part.
Vous êtes aussi la ministre de la Recherche, donc des vaccins, Frédéric Vidal. Où en est le vaccin Sanofi ? Est-ce qu'il fait partie des vaccins aujourd'hui en phase d'homologation ?
Alors, il est en train de finir son essai clinique. Moi, je suis en charge de la recherche, donc de tout le travail qui est fait en amont par les laboratoires de recherche. Là, notamment, ce sont les résultats de l'Institut Pasteur. Il y a deux candidats vaccins, si je puis dire, qui ont été proposés par l'Institut Pasteur. Un qui est développé ensuite par Sanofi, l'autre qui est développé par Merck. Les deux font partie des vaccins qui devraient arriver en 2021.
Donc on aura un vaccin français cette année contre le Covid ?
C'est évidemment ce que nous espérons tous, mais nous espérons tous en réalité un maximum de vaccins contre ce virus, parce que chaque vaccin aura probablement ses cibles, elles pourront être différentes, et l'objectif c'est vraiment que les vaccins nous sortent de cette situation.
Merci beaucoup Frédéric Vidal d'être venu ce soir dans RTL Soir. Merci à vous.
Merci à vous.
À suivre, l'œil de Philippe Cavrivière. Bonsoir Philippe.
Bonsoir à tous. Bonsoir.
Alors les Français sont un peu comme les étudiants, ils n'ont pas un très gros moral, mais vous ça a l'air d'aller.
Ouais,
Philippe.
Oui, ça va bien. Ouais. Mais vous savez pourquoi ? Parce que moi j'écoute le gouvernement. Parce que je suis positive, voilà. Parce que le gouvernement, il dit aux restaurateurs, aux patrons de boîte, tout ça, il dit, mais réinventez-vous enfin, pensez positif. Alors moi, je suis allé voir les SDF en bas de chez moi, je leur ai dit, mais enfin les gars, mais réinventez-vous. Bon, ils m'ont chassé à coups de bouteille. Visiblement, le SDF est pas macroniste, pas trop, ça marche pas. Peut-être parce qu'il fait froid en ce moment, ils l'ont mal pris.
Vous avez de mauvais esprit. Bon, on vous retrouvera avec délectation après le rappel des titres de 18h30. A tout de suite pour l'œil de Philippe Cavrivière.
RTL Soir.